Miss Campbell, dans son rêve, emportée par une imagination un peu fantasque, confondait alors le naufrage du gouffre de Corrivrekan et le rayon vert dans la même pensée. Ce qui est certain, c'est que l'un n'apparaissait pas plus que l'autre. Si les vapeurs obscurcissaient celui-ci, l'incognito cachait celui-là. Les frères Melville, lorsqu'ils s'avisaient d'exhorter leur nièce à prendre patience, étaient assez malvenus. Miss Campbell ne se gênait pas pour les rendre responsables de ces troubles atmosphériques. Eux alors s'en prenaient à l'excellent baromètre anéroïde qu'ils avaient eu le soin d'apporter d'Ellensburg et dont l'aiguille persistait à ne pas remonter. En vérité, ils auraient donné leur tabatière pour obtenir au coucher de l'astre radieux un ciel dégagé de nuages. Quant au savant Ursiclo, un jour, à propos de ces vapeurs dont se chargeait l'horizon, il eut la parfaite maladresse de trouver leur formation toute naturelle. De là à ouvrir un petit cours de physique, il n'y avait qu'un pas, et il le fit en présence de Miss Campbell. Il parla des nuages en général, de leurs mouvements descendants, qui les ramènent à l'horizon avec l'abaissement de la température, des vapeurs réduites à l'état vésiculaire, de leur classement scientifique en nimbus, stratus, cumulus, cirrus. Inutile de dire qu'il en fut pour ses frais d'érudition. Et ce fut si marqué que les frères Melville ne savaient quelle attitude prendre pendant cette inopportune conférence. Oui, Miss Campbell coupa net le jeune savant, pour employer l'expression du dandysme moderne. D'abord, elle affecta de regarder d'un tout autre côté pour ne point l'entendre. Puis elle leva obstinément les yeux vers le château de Dunolly, afin de ne pas paraître l'apercevoir. Enfin, elle regarda l'extrémité de ses fins souliers de baigneuse, ce qui est la marque de l'indifférence la moins dissimulée, la preuve du dédain la plus complète que puisse montrer une Écossaise, aussi bien pour ce que dit son interlocuteur que pour sa propre personne. Aristobulus Ursiclo, qui ne voyait et n'entendait jamais que lui, qui ne parlait jamais que pour lui seul, ne s'en aperçut pas ou n'eut pas l'air de s'en apercevoir. Ainsi se passèrent les 3, 4, 5 et 6 août. Mais pendant cette dernière journée, à la grande joie des frères Melville, le baromètre remonta de quelques lignes au-dessus de variables. Le lendemain s'annonça donc sous les plus heureux auspices. À 10 heures du matin, le soleil brillait d'un vif éclat et le ciel étendait au-dessus de la mer son azur d'une limpidité parfaite. Miss Campbell ne pouvait laisser échapper cette occasion. Une calèche de promenade était toujours tenue à sa disposition dans les écuries de Caledonian Hotel. C'était ou jamais le moment de s'en servir. Donc, à 5 heures du soir, Miss Campbell et les frères Melville prenaient place dans la calèche, conduite par un cocher, habile aux manœuvres du four in hand. Patridge montait sur le siège de derrière, et les 4 chevaux, caressés par la mèche du long fouet, s'élancèrent sur la route d'Oban à Glacan. Aristobulus Ursiclo, à son grand regret, si ce n'est pas celui de Miss Campbell, occupé de quelque important mémoire scientifique, n'avait pu être de la partie. L'excursion fut charmante de tout point. La voiture suivait la route du littoral, le long du détroit qui sépare l'île Kerrera de la côte d'Écosse. Cette île d'origine volcanique était fort pittoresque, mais elle avait un tort aux yeux de Miss Campbell, c'était de lui cacher l'horizon de mer. Cependant, comme il n'y avait que 4,5 milles à faire dans ces conditions, elle consentit à en admirer l'harmonieux profil, dont le découpage se dessinait sur un fond de lumière avec les ruines du château danois qui en couronne la pointe méridionale. « Ce fut autrefois la résidence des Mac Douglas de Lorne », fit observer le frère Sam. « Et pour notre famille, ajouta le frère Sib, ce château a un intérêt historique puisqu'il fut détruit par les Campbell qui l'incendièrent après en avoir massacré sans pitié tous les habitants. » Ce haut fait parut obtenir plus particulièrement l'approbation de Patridge, qui battit doucement des mains l'honneur du clan. Lorsque l'île Kerrera fut dépassée, la voiture s'engagea sur une route étroite légèrement accidentée, conduisant au village de Glacan. Là, elle prit cet isthme factice qui, sous la forme d'un pont, enjambe la petite passe et unit l'île Sale au continent. Une demi-heure plus tard, après avoir laissé la voiture dans le fond d'un ravin, les excursionnistes gravissaient la pente assez raide d'une colline et venaient s'asseoir sur l'extrême bordure des roches à la lisière du littoral. Cette fois, rien ne pouvait gêner la vue d'observateur tournée vers l'ouest. Ni l'îlot d'Isdale, ni celui d'Inish, échoué auprès de Sail, entre la pointe Ardanalish de l'île Moll, l'une des plus grandes des Hébrides au nord-ouest, et l'île Colonsay, au sud-ouest, se découpait un large morceau de mer sur lequel le disque solaire allait bientôt noyer ses feux. Miss Campbell, tout à sa pensée, se tenait un peu en avant. Quelques oiseaux de proie, aigles ou faucons, animant seuls cette solitude, planaient au-dessus des dents, sortes de vallons creusés comme des entonnoirs à parois rocheuses. Astronomiquement, le soleil, à cette époque de l'année et pour cette latitude, devait se coucher à 7h54 précisément, dans la direction de la pointe Ardanalish. Mais quelques semaines plus tard, il eût été impossible de le voir disparaître derrière la ligne de mer, car la masse de l'île Colonsay l'eût dérobé au regard. Ce soir-là, le temps et l'endroit étaient donc bien choisis pour l'observation du phénomène. En ce moment, le soleil se dirigeait par une trajectoire oblique sur l'horizon nettement dégagé. Les yeux éprouvaient quelque peine à soutenir l'éclat de son disque passé au rouge ardent que les eaux reflétaient en une longue traînée de lumière. Et cependant, ni Miss Campbell, ni ses oncles n'eussent consenti à fermer les paupières, non, pas même un instant. Mais avant que l'astre n'eût mordu l'horizon de son bord inférieur, Miss Campbell poussa un cri de déception. Un petit nuage venait d'apparaître, délié comme un trait, long comme la flamme d'un vaisseau de guerre. Il coupait le disque en deux parties inégales et semblait s'abaisser avec lui jusqu'au niveau de la mer. Il semblait qu'un souffle, si léger qu'il fût, eût suffi à le chasser, à le dissiper. Le souffle ne se produisit pas. Et lorsque le soleil fut réduit à un arc minuscule, ce fut cette fine vapeur qui circonscrivit à sa place la ligne du ciel et de l'eau. Le rayon vert, perdu dans ce petit nuage, n'avait pu arriver à l'œil des observateurs.